vendredi 17 mai. Je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Ici Martin Simon, Simon avec un C. Et c'est moi qui vous accompagne au cours des prochaines minutes. Question de mettre la table pour le week-end de course qui aura lieu en Italie, plus précisément à Imola, car c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui se disputera tout au cours du week-end. Donc, au cours des prochaines minutes, comme le veut notre formule, votre guide, eh bien, je vous donnerai le plus d'informations possibles, question que vous puissiez en profiter pleinement. Vous allez pouvoir entendre les différentes améliorations qui ont été apportées par les écuries, les caractéristiques du circuit, ainsi que tous les détails qui se sont produits lors des deux séances d'essais libres qui avaient lieu aujourd'hui. Mais avant tout ça, on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, dans l'actualité, eh bien, s'il avait été avancé par les directeurs de l'écurie McLaren, Zak Brown et Toto Wolff du côté de Mercedes, comme quoi plusieurs CV de l'écurie Red Bull arrive à leur porte ces temps-ci, eh bien, le phénomène semble être vrai dans d'autres directions. Du moins, c'est ce qu'on semble apercevoir, que les vents ont poussé énormément de CV à l'extérieur du clan Mercedes et vers d'autres écuries. On en a fait l'annonce qu'un troisième poste clé sera à combler au cours des prochains mois, car cette fois-ci, c'est le chef aérodynamicien Gioacchino Vino qui a décidé de quitter l'équipe. On ne sait toujours pas où il ira œuvrer au cours des prochains mois ou de la prochaine saison. Il sera obligé de respecter cette fameuse clause qui est souvent coutume en Formule 1, qui est impliquée dans plusieurs contrats lorsqu'on occupe des postes importants. On doit, s'affecter à au moins une période qu'on appelle une période de jardinage. Donc, on doit faire autre chose, prendre un recul, ne plus se mêler, bien sûr, des opérations de l'écurie avec qui on occupait l'emploi, mais non plus ne pas coopérer avec la compétition, la question de leur fournir des informations qui peuvent être encore fraîches. Donc, on doit prendre ce moment de recul-là. Donc, ça sera à surveiller où il ira. On a su dernièrement, du moins, la destination de deux employés qu'on vous avait annoncé qu'ils allaient quitter Mercedes aussi. Ça fait déjà un certain quelques mois, là, quelques semaines qu'on vous avait annoncé ça. Eh bien, c'est du côté de Loïc Serra, lui qui était directeur des performances. Eh bien, c'est du côté de Ferrari, c'est un peu sans surprise qui se retrouve avec la Scuderia. Et c'est la même chose pour son compatriote qui avait quitté aussi, c'est-à-dire Jérôme D'Ambrosio, qui était en charge du développement des pilotes. Ben, lui aussi, il poursuivra sa carrière, son travail en Formule 1 du côté des Rouges, du côté de l'Italie. Il va rejoindre cette vague là, d'employés Mercedes et de pilotes là, quand on regarde Lewis Hamilton aussi qui s'alignera aux côtés de Charles Leclerc la saison prochaine. Est-ce qu'il y en aura d'autres à suivre? Il y a fort à parier que oui, que ceux qui croient en Lewis Hamilton voudront aller là, ceux qui voudront des nouveaux défis voudront joindre Ferrari aussi. Puis il y a tout ça, le fait que Mercedes ne va pas très bien non plus. Donc, est-ce que c'est des mauvaises nouvelles en soi pour les flèches d'argent? Ben, c'est jamais le fun de perdre du personnel qui est là depuis longtemps, du personnel qualifié, mais en même temps, ça va pas trop bien. Donc, remanier un peu, c'est ce qu'on a fait chez McLaren au cours des dernières saisons, et ça a porté fruit d'avoir des idées fraîches, un peu d'avoir une nouvelle vision, tout ça. Donc, peut-être que ça pourrait être un mal pour un bien aussi du côté de Mercedes, là, d'avoir un nouveau départ à partir de l'année prochaine avec tout plein de nouveaux personnels à des postes clés dans l'écurie. Donc, des nouvelles idées. L'autre nouvelle qui a retenu l'attention, ben, c'est une nouvelle un peu sans nouvelle, là, c'est le fait que Alex Albon demeure chez Williams. On le savait, ça avait déjà été annoncé par James Vowles en début de saison, comme quoi il avait toujours un contrat en poche pour 2025, mais on lui a fait signer une prolongation. Ça peut être un peu surprenant qu'on a réussi à le convaincre avec, depuis le début de la saison, là, c'est vraiment loin d'être l'idéal. C'est même une grosse déception, du moins dans mon cas. Williams n'a vraiment pas poursuivi sur ce qu'on avait bâti au cours de la dernière saison. On a plusieurs problèmes, non seulement en approvisionnement, on l'a vu là, avec les histoires de châssis, même si on a favorisé Albon dans ce cas-là, mais on ne veut jamais vraiment voir ça, là, même s'il n'a pas été pénalisé en tant que tel, mais de voir tout ce que ça a demandé pour être capable de juste mettre une voiture en piste au cours de ce week-end de course-là, là, suite à une collision. En plus, après ça, il y a eu plusieurs situations semblables. Là. Donc, on est un peu là, on roule un peu serré là, du côté de Williams. On ne sait pas trop où qu'on s'en va. On dit qu'on a fait un changement de notre lignée de pensée là, dans notre développement. On a essayé de corriger un problème qu'on avait à l'avant de la voiture. Là. L'avant avait tendance souvent à barrer les roues et c'est ce qui faisait une usure prématurée lors de la dernière saison. On a voulu corriger ça, puis là, on a ouvert un peu la porte à d'autres problèmes. On est tout en train d'essayer de maîtriser ça. On sait que ça nous prend des améliorations, mais on a tellement de difficultés à produire des pièces. On a tellement une mauvaise organisation, puis je le dis pas là à l'endroit de James Vowles, c'est surtout les infrastructures qu'on a du côté de l'écurie britannique qui sont désuètes. Là. C'est des vieilles choses. Faut vraiment rattraper, être au goût du temps là, quand on regarde la fine pointe de la technologie, autant que Aston Martin qui s'est doté d'un nouveau campus. On a Red Bull qui continue, même si c'est vieux, on continue de mettre des améliorations, d'investir des sommes d'argent là-dedans. On a McLaren qui a fait la même chose. On a Mercedes qui continue. Même chose du côté de Ferrari. Donc, si on veut vraiment garder le cap de Williams, là, c'était un problème qui avait été noté par l'ancienne administration. Ça a été acheté, bien sûr, les nouveaux actionnaires. Quand on a acheté, on voulait rentabiliser un peu nos actifs avant de commencer à faire des investissements, des gros investissements là, aussi importants que de développer des nouvelles infrastructures. Donc, c'est un peu tout ça qui se trame du côté de Williams. Ça n'a pas fait peur à Alex Albon. Même s'il aurait pu se présenter dans un marché des pilotes autonomes un peu fou, est-ce qu'il a un peu aussi été voir le marché puis c'était pas si intéressant que ça? C'est pas ce qu'on pense, qu'il n'y a pas tant d'offres que ça. On avait beaucoup de rumeurs du côté de Red Bull. Vous savez, le propriétaire thaïlandais qui a 51% des actions, d'aller rapatrier un pilote comme Alex Albon, qui est un pilote d'origine thaïlandaise aussi, c'était la rumeur qui était bien entendue, comme quoi Red Bull était intéressé à le ramener dans la famille. Lui qui avait été là en début de carrière, qui avait passé notamment chez Toro Rosso avant de transférer chez Red Bull pour un court séjour aux côtés de Max Verstappen c'était un peu mal terminé. On lui avait pas vraiment donné sa chance. Il est arrivé là très jeune avec très peu d'expérience et on sait là, maintenant, du moins on a encore plus de preuves qu'être coéquipier de Max Verstappen, même avec beaucoup d'expérience comme Sergio Perez, ça peut devenir assez complexe. Donc pour un jeune comme Albon, c'est ce qui avait un peu affecté sa chance dans une écurie de premier plan. Donc on espérait, là, on était plusieurs à espérer le revoir là. Pour l'instant, il semble qu'il a donné son vote de confiance à Williams. Il va aider le développement. L'information qu'on a aussi, c'est qu'il sera là aussi pour la nouvelle réglementation. Donc, c'est pas juste un contrat. Là, comme on savait, il y avait une année en poche 2025. Donc, on peut conclure là, au moins minimum jusqu'à la fin 2027. Il sera toujours un membre de l'écurie Williams. Qu'est-ce que ça fait sur le portrait des pilotes autonomes? Eh bien, ça fait qu'il en reste 10 encore qui sont sans contrat l'année prochaine. On a commencé la saison, on avait environ 14. Donc, il en reste quand même 10, ce qui est énorme. Ce qui est littéralement la moitié du peloton, donc 50% du peloton n'a pas de contrat pour la saison prochaine. Pour vous dresser un peu le portrait, bien il y a Sergio Perez chez Red Bull, c'est toujours pas confirmé. Carlos Sainz, toujours sans emploi malgré sa bonne saison, ses beaux efforts. Même chose, on pourrait dire la même chose un peu pour Perez, c'est un bon début de saison, c'est un peu drôle que les deux ne savent toujours pas là, qu'est-ce qui va arriver de leur avenir, ou du moins ont peut-être une certaine idée, mais ne se sont pas commis encore. Après ça, ben on a l'équipe Alpine au complet. Là. Autant Esteban Ocon que Pierre Gasly, les deux pilotes n'ont pas de contrat pour la saison prochaine. On a des nouvelles, des rumeurs comme quoi qu'on commence à regarder des plans B pour peut-être emmener Mick Schumacher plutôt, lui qui est en Syrie Enduro présentement, qui représente Alpine. Il est déjà dans la famille, donc est-ce qu'on pourrait tenter de lui donner un des deux volants si jamais on venait à perdre Ocon ou Gasly, ou que les négociations n'allaient pas dans le bon sens. Autre écurie aussi que leurs deux pilotes sans contrat, eh bien c'est Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo chez Racing Bulls. Même chose, on a Liam Lawson qui est pratiquement garanti. Là, pour nous, là, c'est quasiment chose faite que Liam Lawson va avoir un de ces deux volants-là l'an prochain. Donc, soit Tsunoda ou Ricciardo devra laisser sa place. Ils sont toujours en audition d'ici la fin de saison. Une autre écurie là, que ces deux pilotes ne sont pas confirmés pour l'année prochaine. Le seul qui est confirmé pour avoir un volant, il n'est pas présentement dans leur équipe, et c'est Hülkenberg. Et c'est du côté de Stack qui deviendra Audi en 2026. Donc, c'est déjà Audi qui dirige les embauches. On a déjà confirmé Nico Hülkenberg. Il reste toujours à confirmer le deuxième. Pour l'instant, on sait que un des deux, soit Guan Yu Zhou ou Valtteri Bottas, ne sera pas de retour avec eux l'an prochain, donc devra se trouver un nouveau volant. Donc, ça reste à voir si ce sera les deux qui devront se trouver un nouvel emploi ou seulement un des deux. Donc, si on décide de au moins conserver l'un des deux talents qu'on a présentement avec l'écurie. Ensuite, on a Kevin Magnussen chez Haas. Bien, lui, peut-être que ça peut l'aider. Il n'y a pas un très bon début de saison. Il n'y a pas eu une très bonne saison précédente non plus. Ça s'en va un peu nulle part. Il collectionne les pénalités. Il est très, très près de recevoir une suspension. C'est vraiment pas rien pour l'instant. À part d'être un bon gars d'équipe et d'aider son coéquipier à faire des points, c'est vraiment pas le gars sur qui on devrait vouloir construire. Peut-être qu'on va y aller sur du temporaire et improviser un peu avec une année de plus avec Magnussen parce qu'on perd déjà Hülkenberg. Puis on va apporter un jeune. Là. Encore là, confirmation qui vient de nous, mais il n'y a rien confirmé dans le domaine, mais nous, on est pas mal sûr que ça sera Oliver Berman qui va se retrouver, qui va remplacer Hülkenberg chez Haas, qui va être un pilote qui va être prêté par Ferrari en attendant que, bien sûr, Lewis Hamilton sera aux côtés de Leclerc. On n'a pas de place pour un jeune. C'est pas la tendance de Ferrari, normalement, de faire graduer des pilotes directement dans leur écurie. On les laisse faire un petit séjour ailleurs, on les évalue, on les laisse se faire les dents, prendre l'expérience. C'est ce qu'on a fait avec Charles Leclerc dans le temps avec Alfa Romeo. On a pu se partenariat-là avec Alfa Romeo qui devient Audi. Donc maintenant, on s'est tourné du côté de Haas. On va sûrement placer Oliver Berman là-bas pour au moins une à deux saisons. Qu'est-ce que ça fait du côté? Est-ce qu'on vit qu'on va avoir un pilote jeune? On va décider de garder un vétéran, garder Magnussen. Donc ça reste à voir, mais lui, ça en est un autre qui est sans contrat. Et l'autre qui risque vraiment de plus être là, c'est une question de mois, peut-être même des fois on pourrait dire une question de semaine et de jours. Bien, c'est Logan Sargeant, lui qui n'est toujours pas confirmé pour une prochaine saison, ça ne devrait pas arriver non plus. Donc, ça sera à surveiller là, qui prendra sa place, que ce sera Kimi Antonelli. Mais il fait partie là, des 10 pilotes qui n'ont pas de contrat en poche pour l'année prochaine. Il y a celui qui est entre parenthèses, là, parce que moi, selon moi, si moi j'interprète ça, il n'y a pas de contrat l'année prochaine, c'est Lance Stroll. Certains d'entre vous m'ont déjà mentionné, non, il est contrat, il y a un contrat, il n'y en a pas de contrat, c'est son père qui décide. Tout le monde a un peu sa théorie là-dessus. Mais moi, je me fie à ce qui a été mentionné par Mike Crack la saison dernière. On a dit qu'on confirmait Lance Stroll pour 2024. Et ce n'est pas le genre de vocabulaire qu'on utilise lorsqu'on offre un contrat long terme à quelqu'un. On l'a vu, on a encore un exemple encore plus frais cette semaine. Albon, on dit un multi-year contract, donc plusieurs saisons, un contrat de plusieurs saisons, un contrat long terme, on utilise ces mots-là. Quand on veut pas se lancer, là, on veut pas donner de date, on veut pas nécessairement aider les autres équipes à mettre sur leur calendrier de dire à partir de telle date, tu vas pouvoir avoir accès à mon pilote. On veut pas s'étaler sur la place publique, là, on essaie de garder tout privé. Donc, dans ce moment-là, on dit un contrat long terme ou un contrat de plusieurs saisons. Ça a été la même chose pour Alonso avant que les petits détails sortent entre les branches. Ça a été la même chose avec Hamilton. C'est souvent ça. Finalement, ça finit par sortir. Mais c'est pas ce qui a été utilisé dans Lance Stroll. Lance Stroll, on a dit confirmé pour 2024. C'est tout ce qu'on a dit. Selon moi, c'est un contrat d'un an qui se termine à la fin de la saison 2024. Même s'il n'apparaît pas sur les listes d'agents libres, n'est pas officiellement un agent libre à la fin de la saison, je me fie simplement au vocabulaire qui a été utilisé du côté de Minecraft, que selon moi, c'est du année par année, on réévalue la situation. Donc, à la fin de la saison, ou en s'en allant là, vers la fin de la saison, on devrait réévaluer la saison, la direction avec Lance Stroll. Donc, pour moi, il est entre parenthèses. Il n'est pas parmi les 10, mais il est pratiquement le 11e agent libre à venir à la fin de la présente saison. Si ce conclut l'actualité maintenant, passons au week-end de course qui se déroule à Imola. Le Grand Cirque est en Italie pour le week-end, le Grand Prix d'Émilie-Romagne, aussi connu sur le nom de Grand Prix d'Imola, ce qui est beaucoup plus simple. C'est un tracé légendaire, un classique de la Formule 1 de 4,9 km de long, 63,9% du tour se déroule à plein régime. C'est un circuit qui se conduit sens contraire des aiguilles d'une montre avec 19 virages très bien balancés, 10 qui tournent vers la gauche et 9 vers la droite. Ce qu'il y a aussi à retenir parmi ces 19 virages-là, c'est qu'il y en a un qui est baptisé en honneur de Gilles Villeneuve, qui s'appelle le virage Villeneuve. C'est le virage 5 de mémoire, donc portez attention à ça au cours du week-end, si vous entendez. Villeneuve, eh bien, non, ce n'est pas qu'il a un Villeneuve sur la piste, c'est plutôt que les 20 pilotes sont en train de disputer ce fameux virage-là. On a une zone DRS seulement, donc ça amène les dépassements un peu plus compliqués. C'est un tracé qui n'est pas très large aussi, donc c'est très technique. Il faut travailler nos dépassements et plus souvent qu'autrement, les dépassements vont être faits par une erreur provoquée. Donc on l'avait vu il y a quelques saisons, parlez-en à Charles Leclerc qui voulait désespérément rattraper Sergio Perez. Finalement, il s'est aventuré un peu trop loin et de façon un peu trop téméraire sur la chicane. Il a pris le premier vibreur un peu trop agressivement, c'est ce qui l'a envoyé dans le mur. Donc c'est plutôt ça qu'on risque de voir plutôt que des dépassements. C'est possible d'en faire, on en a déjà vu par le passé. Je vous mentionnais justement la zone DRS, la grande ligne droite. Dans certains virages, si c'est bien négocié et bien travaillé, les pilotes les plus doués peuvent se permettre d'en faire un, mais pour le reste, là, c'est très très serré là, avec ces grosses voitures-là. C'est un circuit qui était déjà étroit par le passé, donc avec les nouvelles générations de voitures, ben, il l'est encore plus. Pour ce qui est des améliorations, les différentes écuries, qu'est-ce qu'ils ont apporté pour le week-end? Eh bien, c'est Ferrari, c'est rendu une routine, on est rendu habitué. À chaque année, on nous mentionne que nos premières grosses améliorations sont prévues pour le Grand Prix à Imola. La saison passée, c'est pas arrivé. Bien sûr, ça avait été annulé à cause de la tempête, là, la grosse pluie qu'il y avait eu là-bas. Il y avait eu des inondations qui avait même provoqué des décès. Donc, on peut comprendre dans ce temps-là qu'il y a autre chose de plus important que la Formule 1. On pouvait même pas penser dérouler la course car les rues n'étaient même pas accessibles pour les différents services de sécurité et d'urgence. Donc, ça avait été annulé là, quelques jours avant. Là, les différentes écuries s'étaient déjà rendues sur place. Donc, des mauvais souvenirs. Là, on ne veut pas trop se remémorer ça. Mais c'est pour ça qu'on n'avait pas apporté les améliorations à Imola. Mais c'était quand même là qu'ils avaient été prévus. Donc, on nous habitue maintenant. Au début, on analyse, on prépare un peu ce qu'on a besoin. Puis là, devant nos partisans en Italie, bien, on apporte là, nos armes cachées, là, qu'est-ce qu'on veut, nos munitions pour le reste, pour une partie de la saison, là, au moins nous apporter jusqu'à la mi-saison. C'est une réplique à nos adversaires. Red Bull le fait au Japon. Du côté de McLaren, bien, on le fait à Miami. On avait été agressif du côté de McLaren avec 10 améliorations. On est tout prêt avec Ferrari avec 7. C'est pratiquement une nouvelle voiture aussi. On peut quasiment appeler ça une SF24B. Qu'est-ce qu'on a parmi les améliorations là, qui peuvent attirer notre attention un peu plus? Bien, j'attire votre attention vers la forme dans l'entrée d'air, là, sur les pontons, là, tout ce qui fonctionne pour le système de refroidissement. Bien, on a emprunté un peu la version de la RB20. Là. On est allé un peu là, dans cette lignée de pensée-là. On a aussi ajouté une petite bordure là, sur le haut, question de faire encore mieux dévier l'air à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est surtout là-dessus, là, sur le plancher, notre système de refroidissement, l'aileron arrière, on a travaillé toutes ces formes-là. Tout se passe beaucoup là, au centre de la voiture. C'est là qu'on a sûrement identifié une problématique qui... Peut-être qu'on trouve que le devant travaille bien, ça bloque un peu au milieu, puis là, on a raffiné un peu notre milieu de la voiture pour aller vers l'arrière, là, qu'on ait une meilleure cohésion sur l'ensemble de notre concept. Donc, c'est ce qu'on nous présente pour le week-end. On a parlé beaucoup du côté de Ferrari, même si on a essayé de descendre les attentes, mais on s'attend, on est assez confiant de ce qu'on a à présenter. On a aussi utilisé, là, vous savez, en Formule 1, on n'a plus le droit de faire des tests. Ça fonctionne, là, on a des heures limitées de mémoire, ça nous donne environ une quarantaine de tours qu'on a le droit de faire, ou peut-être un peu plus que ça, qu'on a le droit de faire là, pour des journées de tournage. Donc, de mémoire, là, c'est 200 km. Donc, 200 km, ça doit être à peu près ça, une quarantaine de tours qui est permis. On en a utilisé de ça du côté de Ferrari. On ne sait pas là, si c'est complet pour le restant de la saison, mais on a utilisé ça pour faire des tests lors du week-end, de la semaine dernière avec nos améliorations. Donc, on a déjà une petite idée de comment ça répond. C'est pas sur le circuit d'Imola qu'on a fait ça, donc tout ça, ça reste neuf, mais on semblait quand même assez confiant, même si on dit pas, on s'en vient battre tout le monde, puis on est les favoris, là. C'est pas notre genre, là, en Formule 1, de dire ça, là, même si c'est déjà arrivé vers le passé, mais maintenant, on essaie plus de tempérer les attentes, mais on peut s'attendre à ce que Ferrari soit assez puissant. Le fait qu'on est à la maison, normalement, la voiture répond toujours bien sur ces circuits-là, Imola, Monza, c'est toujours des places où c'est assez compétitif. Les voitures, bien sûr, sont faites avec les caractéristiques de ces circuits-là, puis en plus, tout ce qu'on apporte, là, ça va être, puis des fois, ça peut jouer notre désavantage aussi, là, c'est question d'apprivoiser notre nouvelle voiture, mais normalement on devrait être à surveiller, là, du moins en performance brute, Ferrari devrait être compétitif tout au long du week-end. Parlant de compétitif, bien, on ne peut pas dire le mot sans penser à Red Bull, même s'ils ont été vaincus lors du dernier week-end, il reste toujours à se faire battre en piste sans une voiture de sécurité, qu'on ait un vrai dépassement de devoir, une McLaren ou une Ferrari, une Aston Martin peut-être, on ne sait jamais, une Mercedes, les dépasser Max Verstappen en piste sans qu'ils aient nécessairement un bris mécanique ou une voiture de sécurité. C'est ce que certains d'entre vous espéreront peut-être, vont peut-être espérer voir au cours du week-end. Les amateurs aussi pour avoir une bonne compétition, savoir que peut-être qu'on pourrait avoir une lutte à trois d'ici la fin de saison. Peut-être qu'on rêve un peu large, peut-être que Red Bull a pris trop d'avance, mais ça reste à voir. Là, ça va être à analyser. C'est tout au long de la saison, surtout dans ces débuts-là, là, c'est très important parce que tant qu'on n'a pas vu ce que tout le monde a apporté à la table, a travaillé, on ne peut pas encore vraiment tirer des conclusions. On sait que oui, Red Bull est en avance, on sait que oui, McLaren est là, on sait que Ferrari est là, mais tant qu'on n'aura pas complété les trois nos améliorations, ça va être encore un peu dur là, de vraiment dresser ou les forces de tous et chacun. Du côté de Red Bull, ben, on réplique. Nous aussi, on apporte des choses. On apporte 5 mises à jour, dont 4 qui sont pour... qui sont pour la voiture en tant que telle pour le reste de la saison, ou seulement une est pour les caractéristiques du Grand Prix d'Imola. C'est des modifications là, un peu partout, là, que ce soit on a la portée sur l'aile avant qu'on a travaillé, le nez, un peu le plancher, donc c'est un peu ça là, qu'on essaie, là, c'est surtout, on essaie de raffiner des choses qu'on avait apportées au Japon, donc ça reste à surveiller. Ceux qui se sont montrés discrets depuis le début de la saison, on essaie de trouver notre fenêtre de performance avant d'apporter trop d'améliorations, mais c'est Mercedes. On en a présenté à Miami et on continue un peu sur la même lignée avec des modifications à notre voiture. Ce qu'on essaie de faire un peu, là, c'est quand on est encore discret. On dit que c'est plutôt vers la fin de la saison qu'on va en apporter plus, mais pour l'instant, on a changé un peu la carrosserie, l'aile arrière, puis quelques modifications au plancher et à la suspension. Ça semble beaucoup quand on nomme ça, mais eux, de notre côté, de leur côté, dans les informations qu'ils transmettent, c'est que c'est simplement des petits ajustements, puis tout ce qui est plus majeur en frais de mise à jour, ben ça va venir plus tard dans la saison. Ceux qui ont été agressifs, eh bien c'est Aston Martin. Aston Martin, on n'a pas aimé notre présence à Miami. On avait préparé des choses pour la saison. On en avait déjà apporté. Là, on disait qu'à tous les fois qu'on aura quelque chose, on essaiera de l'apporter au circuit pour le week-end. Mais là, on est un peu plus agressif. Là, on voit qu'on a beaucoup misé sur ce qu'on apporte à Imola. Donc, ce qu'on a changé, ben c'est 9 améliorations, c'est nous qui en a le plus. Autant là sur en avant, le museau avant, l'aileron arrière, on a pas mal tout changé ces choses-là, puis le plancher. Là. Donc du plancher au nez, puis l'aileron arrière, on a toutes des modifications autour de ça. Donc très agressif du côté d'Aston Martin. On a des petites choses aussi, des fois qu'on ne se rend pas compte, qui sont sous la voiture, qu'on nous mentionne qu'il pourrait être des gros changements aussi. Donc ça aussi, c'est assez majeur. On pourrait aussi caractériser la AMR 24 comme étant une AMR 24B avec tous ces changements-là. McLaren, bon, on continue là, sur la lancée. On en avait déjà apporté plusieurs. Bon, on a apporté ce qui nous manquait là, sur... pour avoir sur les deux voitures. Puis ce sont nos deux petites mises à jour, mais c'est seulement pour des ajustements là, de l'aileron arrière. Puis c'est un peu des choses aussi pour être plus adapté au circuit d'Imola. Du côté de Alpine, Williams, puis Stack, on a aussi apporté des choses. Du côté de Haas aussi, c'est très semblable là, sur quoi qu'on joue. On joue sur les ailerons, ajustements un peu sur les rebords de plancher. Donc c'est un peu ce qu'on nous présente pour le week-end. Donc c'est ce qui résume pas mal tous les améliorations de tous les côtés. Chose à noter aussi, c'est que du côté de Charles Leclerc, nouvel ingénieur lui parle dans ses oreilles au cours du week-end, donc un nouveau mariage. Ça faisait longtemps qu'il était avec l'autre. C'est un peu un nouvel... on a essayé quelque chose de nouveau. On a donné une promotion à son ingénieur de piste qui assumera un nouveau rôle. C'est le troisième, hein, depuis le début de la saison, qui se retrouve à avoir quelqu'un de différent avec qui travailler. On se rappellera que Lance Stroll en début de saison. Ensuite, il y a eu Valtteri Bottas, tout récemment, qui a changé. Et puis maintenant, Charles Leclerc, donc le troisième pilote à travailler avec un nouvel ingénieur. Donc, si vous voyez des choses, des fois, au cours des qualifications ou des communications qui peuvent sembler plus différentes, donc soyez pas surpris, là, c'est un nouveau partenariat qui se dessine. Pour ce qui est des séances d'essai libre, eh bien, à noter la surprise, là, même si on dit que la première séance, on n'en tient vraiment jamais compte, bien, il y a Yuki Tsunoda qui a très bien fait. Les Ferrari, McLaren, ainsi de suite, ça a bien été dans la première séance. Red Bull ont eu des ennuis, mais le fait que Tsunoda ait été là dans la première séance, la raison pour laquelle je vous le mentionne, c'est qu'il était là dans la deuxième aussi. C'est Charles Leclerc qui a été le plus rapide devant Oscar Piastri, mais Yuki Tsunoda a signé le troisième temps. Donc c'est assez représentatif le fait qu'il était environ, de mémoire, c'est cinquième dans la première séance de célib, il se retrouve troisième dans la deuxième. Oui, tout le monde teste des choses, je vous le nommais, là, beaucoup de nouveaux matériels pour les différentes écuries, donc tout le monde essaye un peu d'aller chercher des données de leur côté, faire des études différentes, donc c'est dur des fois d'évaluer entre coéquipiers s'ils sont vraiment en train de faire la même chose ou sont en train plutôt d'exploiter des avenues différentes pour aller regrouper des données pour leurs écuries. Mais du moins, Tsunoda qui se retrouve là, là, ça serait vraiment surprenant et décevant de ne pas les voir au moins percer le top 10 au cours du week-end. Donc, comme je vous nommais, oui, Leclerc a été le plus rapide dans la deuxième séance de célib. Deuxième, Piastri. Les McLaren ont été, on voit là, qu'ils sont là, sont dans le coup pour le week-end. Ils étaient bons à Miami. On voit que les améliorations continuent. Ça, c'est une bonne nouvelle en soi pour l'équipe Orange Papaye. De temps en temps, là, on l'a vu, on modifie quelque chose sur une voiture, puis on dit « Ah, ça, ça a bien marché, ce circuit-là, mais ça n'a pas nécessairement marché ailleurs. » Puis on doit continuer de travailler, faire des ajustements, trouver des compromis pour essayer d'équilibrer notre voiture pour qu'elle puisse performer sur différents types de circuits avec différentes caractéristiques. Donc, de voir que ça fonctionnait à Miami, qu'on se présente à Imola, qu'on semble encore compétitif et qu'on semble être en mesure d'extraire encore de la performance et d'en apprendre sur notre nouvel emballage de mise à jour, bien, tout ça, bien, c'est du positif et ça semblait être le cas pour McLaren. Tsunoda, je vous le disais, troisième, Hamilton, quatrième, cinquième, Russell. C'est dur à évaluer du côté de Mercedes, je m'emballe pas trop, des hauts, des bas, c'est dur à dire qu'est-ce qu'on fait pour les tests, il y a eu des pertes de contrôle, même s'il y en a eu pour plusieurs pilotes. Le vent aussi a été un facteur tout au long de la journée. Il est venu déranger les pilotes à différents moments au cours de la journée. Donc, tout ça, ça reste à voir. L'échantillon est trop petit pour Mercedes. Trop souvent, on dit « Ah, c'est bon, ça semble être l'amélioration, on semble avoir mis le doigt sur quelque chose. » Finalement, le lendemain, c'est un cauchemar, puis on se ramasse exclu en Q2. Donc, pour l'instant, c'est très dur à dire. Oui, on se retrouve au 4e, 5e rang. Hamilton devant Russell, ce qu'on n'a pas vu souvent au cours de la saison. Est-ce que c'est positif? Ça va m'en prendre plus pour m'avancer là-dessus. Mais pour l'instant, on peut dire que oui, c'est bien parti. On semble avoir travaillé sur des choses dans la première séance de célib, puis dans la deuxième, avoir peut-être trouvé et être capable de bâtir là-dessus, mais ça reste à voir au cours du week-end. Sixième pour Sainz. Du côté, là, les difficultés de la journée, là, ce qui a retenu l'attention, bien du côté de Red Bull. Septième pour Verstappen, puis huitième pour Perez. Puis encore là, là, on peut lire là entre les lignes ce qui se passe, que c'est vraiment général dans l'équipe. C'est pas juste Max Verstappen qui a de la misère à trouver ses repères. C'est la même distance qu'on voit d'habitude. D'habitude, on voit Max en avant, puis on voit Perez 2 dixièmes, 1 dixième et demi à l'arrière, puis on sait, ah, le week-end est correct, lui est premier, l'autre, il traîne un peu derrière, sont corrects, Red Bull sont en voiture. Mais là, on a la même situation, sauf à partir de la 7e place. On a Verstappen 7e, puis il y a 1 dixième et quelques derrière, on a Perez qui suit. Donc, on voit que des deux côtés, c'est pas juste un bord qu'on a eu la misère à trouver derrière, c'est la voiture en général. Oui, on est en connaissance de cause que cette saison, Perez suit les réglages de Verstappen. Fait que c'est sûr, si lui a de la misère à trouver les siens, ben, c'est pour la même chose pour Sergio Perez, parce qu'il attend un peu que ça soit le Néerlandais qui lui trouve les réponses. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on a trouvé qu'est-ce qu'on avait besoin? Oui, d'après Verstappen, ça a été une mauvaise journée, mais ça peut pas être pire demain. Selon lui, la pire journée du week-end, elle a été connue. Du côté de la voiture semblait bien répondre quand on faisait les simulations de course, mais on est encore une demi-seconde en bas de ce que Charles Leclerc était capable de faire. C'est gros, une demi-seconde, là, surtout quand on commence à mettre ça autour en séance de course. Donc, que Ferrari soit vite sur un tour donné, on est habitué avec ça. C'est le cas depuis pratiquement 2022-2023. On voit souvent que la Ferrari sur un tour donné est plus rapide, mais c'est en course que ça se gâte. Puis même en qualification, des fois, on ne réussit pas à saisir pleinement notre opportunité ou d'être capable de tout mettre la performance ensemble sur un tour complet, malgré qu'on est, on voit que sur les statistiques, on est là, mais quand c'est le temps puis ça compte, on ne saisit pas les pole positions. Mais là, si on est capable d'être en avance dans les statistiques de course ainsi que de qualification, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent et ça pourrait être intéressant là, pour très positif pour le clan italien. Ben c'est ça, il reste à travailler pour Red Bull, mais s'il y a une écurie qui peut le faire un peu, saisir leur opportunité. On sait que normalement, quand ils connaissent un mauvais week-end, ils rebondissent très fort. On peut pas dire qu'ils ont connu un mauvais week-end, mais ils ont été vaincus, ce qui est rare. Puis normalement, ça les motive à sortir plus fort. Donc, ils seront à surveiller, surtout du côté de Verstappen, tout au long du week-end. Ensuite, Hülkenberg, 9e. Ça, c'est vraiment rendu la place des As. Hein. Même si on a emporté des améliorations, on le voit constamment, Hülkenberg dans un top 10, capable de se tenir dans une position 9e, 10e. En qualification, en essai libre, c'est vraiment là qu'il semble être sa place. Très régulier, Hülkenberg. Encore une fois de plus, on le dit. Très bonne saison. Depuis un retour en Formule 1, il a très bien réussi son retour. Il nous montre qu'il n'aurait jamais dû perdre son volant. C'est les injustices parfois que le sport nous apporte. Mais Hülkenberg, bien content de voir qu'il est de retour et qu'il sera avec nous la saison prochaine aussi, là, puis avec Audi pour un certain temps aussi. Il le mérite bien. Je pense qu'il appartient aux 20 meilleurs pilotes au monde. Parlant de 20 meilleurs pilotes au monde, ben Fernando Alonso, qui est 10e. Aston Martin, est-ce que c'est un peu décevant? Est-ce qu'on travaille des choses? Vous vous rappelez, là, par le passé, Aston Martin, quand on apporte des améliorations dans un week-end, ça donne toujours des week-ends difficiles. On dirait qu'on a de la misère à lire ce qu'on a, à comprendre ce qu'on a apporté, puis d'être capable de bâtir là-dessus. Ça nous prend un certain temps à s'ajuster, même des fois, on dit « Ah, ben là, on va de l'arrière plutôt de l'avant. » C'est des phrases qu'on a entendues dans l'entourage d'Aston Martin la saison dernière, en espérant que c'est pas ce qui se répète. On apporte quand même quelque chose de majeur, puis on est quand même 10e. Oui, on a fait beaucoup d'ajustements. On n'a pas nécessairement eu l'occasion de faire les meilleurs temps possibles, sauf que j'aurais aimé ça voir quelque chose de plus brut, quelque chose qui saute un peu plus aux yeux pour l'équipe verte. 11e pour Ricardo, 12e pour Norris. Norris, là, il est loin de Piastri, mais il a eu de la difficulté à compléter des bons temps. S'il y a eu le trafic, il y a eu des choses qui ont fait qu'il n'a pas pu montrer la même performance que Piastri. Mais je peux vous dire, là, pour ce qu'on a vu pour les temps, ces choses-là, les deux McLaren sont là. Ils vont être à surveiller tout au long du week-end. 13e pour Stroll, 14e pour Ocon, 15e pour Gasly, 16e pour Bottas. Du côté de Stack, bonne nouvelle, on semble avoir réglé, du moins c'est ce qu'on nous annonce. Notre problème pour les aéropuits, ça sera surveillé tout au cours du week-end. D'après moi, ça ne sera pas très long, on va le voir aussitôt qu'il va y avoir un arrêt, là, de savoir, on dit qu'on a amélioré ça, on a réglé le problème. Mais régler le problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fera plus des arrêts au puits de 30 secondes, on va en faire de 6-7 secondes, comme on nous avait annoncé au départ, ou on va en faire de 5 secondes, de 4 secondes, ou à 3,9 secondes. Pendant que tout le monde arrête en 1.kek ou en 2.kek, nous on va dire 3.kek, c'est notre amélioration. On part de loin, laissez-nous une chance. Ça reste à voir, mais c'est ce qu'on nous annonce pour le week-end, qu'on aurait réglé le problème. Magnussen, 17e. Albon, 18e. Journée oubliée là, pour Williams. Bravo Albon, nouvelle signature de contrat au cours de la semaine, mais il est retourné vite dans sa réalité. Ça n'a pas bien été. Il a cassé quelque chose sous sa voiture en essai libre 1. Ça a pris pratiquement toute la deuxième séance d'essai libre pour réparer ça. C'était la même chose pour Sargent. Tout le dessous de la voiture est enlevé. Même à un moment donné, je me demandais si on n'était pas en train de prendre des morceaux de celle à Sargent pour finir de construire celle à Albon. Vous me direz que c'est pas très paranoïaque de penser ça parce que cette situation-là est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est peut-être on a raison de penser à ça quand on voit des mécanos travailler sur les deux voitures en même temps puis sembler démonter les mêmes morceaux. C'est soit un hasard ou soit juste un déjà-vu, un copier-coller de ce qui s'est passé en début de saison. Eh bien, ici, ce qui complète la grille, oui, Sargent, 20e, lui aussi, ça a été la même chose. Une journée à oublier pour Williams. C'est ce qui complète notre journée de vendredi et toutes les informations que vous devriez avoir besoin pour profiter pleinement de votre week-end de course en Italie. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 17 mai. En terminant, je vous invite à nous suivre notamment sur Spotify, mais aussi sur Facebook, X, Twitter, ainsi que Instagram. Tout au long du week-end, vous pourrez joindre la discussion avec nous, nous faire parvenir votre opinion sur les qualifications ou même le Grand Prix, ainsi que prédire le top 5 de dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end de course. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Merci de faire confiance à F1 Podcast et on se reparle lundi.